Chers auditeurs, bonjour. Quoi de neuf à la BSR? Eh bien, énormément de choses, de belles choses, de magnifiques rendez-vous. Nous allons tout de suite commencer avec le programme de la 8e saison de BSR Apéro, votre café littéraire de la Bibliothèque Sonore 2018-2019. Nous commençons le samedi 29 septembre avec deux comédiennes que vous connaissez très certainement et qui nous feront l'immense plaisir de venir à la BSR. J'ai nommé Claudinga Barbet et Doris Ittig qui viendront pour vous jouer Christmas Pudding, un spectacle autour d'Agatha Christie, inspiré, tenez-vous bien, d'une histoire réelle. En 1926, la romancière disparaît pendant une semaine. Les hypothèses les plus invraisemblables circulent. Où est passée la reine du crime? Et nous aurons même deux représentations à la BSR, une à 14h et une à 17h, qui seront toutes les deux précédées d'une description du décor et des costumes. Inscrivez-vous très rapidement. Le samedi 27 octobre, un autre rendez-vous assez exceptionnel dans le cadre de BSR Apéro, nous recevrons l'écrivain Nicolas Bokoff sur le thème « Attendre dans la vie comme une attente ». Nicolas Bokoff est un écrivain et universitaire russe, dissident, participant du Samizdat. Il a fait passer des ouvrages hors de l'URSS sous des pseudonymes et il est réfugié politique en France depuis 1975. Nous enchaînons, et non des moindres, le samedi 24 novembre à 10h. Nicolas Bokoff, ce sera aussi à 10h. Donc le 24 novembre, toujours à 10h, nous recevrons Jean-Marc Merat qui nous parlera de 1968 en archives sonores, de la libération à la répression. Le samedi 26 janvier 2019, toujours à 10h, je trempe ma plume dans la vie, le reste n'est que grammaire. Nous recevrons l'écrivain René Frény, qui est auteur d'une quinzaine de romans, imprégné de son expérience. Il a exercé divers métiers, dont celui d'infirmier psychiatrique, et il a longtemps animé des ateliers d'écriture à la prison des Baumettes à Marseille. Le samedi 23 février, toujours à 10h du matin, nous aurons le plaisir de vous proposer une lecture animée de Colette, nommée « L'envers du music hall » par la comédienne Claudine Berthet. Et nous finirons cette exceptionnelle saison BSR Apéro le samedi 30 mars, toujours à 10h, « Quand l'imaginaire s'invite dans le réel » par Janine Massard, écrivaine vaudoise, dont l'œuvre en partie autobiographique se caractérise par une forte réflexion sociale. Marc, qu'est-ce que tu dis de ce programme ?
Mais magnifique. Alors, on peut juste situer un petit peu. Par exemple, Claudinga Barbet, c'est l'auteur de Bergamote. Nicolas Bokoff, La tête de Lénine, un très très bon roman que nous avons à la BSR, que je vous recommande. Jean-Marc Merat, ben, vous le connaissez. Claudine Berthet, c'est la femme de votre lecteur Gérald Bloch. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ?
René Frény a reçu le prix des lecteurs Gallimard en 2017.
Lui, on ne le connaît pas, mais je pense que ça ne va pas être dénué d'intérêt.
Et puis, Janine Massard, dont de nombreux livres sont à la BSR. Et nous avons la chance également que notre collègue Sergio Belluz ait écrit la préface de son dernier roman.
Je pense qu'il faut encore rappeler au niveau des inscriptions.
Alors, nous avons la chance d'accueillir de plus en plus de personnes à BSR Apéro. Donc, nous avons dû un peu renforcer au niveau des inscriptions. Donc, avant, c'était inscription souhaitée. Et maintenant, nous avons dû passer à réservation obligatoire pour être sûr que nous disposions d'assez de place pour accueillir tout le monde correctement. Donc, les réservations sont obligatoires, soit sur notre mail info@bibliothequesonore.ch, soit au téléphone 021 321 1010 ou lors d'un de vos passages à la BSR. Mais vraiment, réservez vos places le plus vite possible. Ça se remplit très vite et on en est vraiment très content.
C'est comme à la radio dans certaines émissions. Voilà.
Et comme chaque année avec le retour du printemps arrive le rapport d'activité. Et cette année, nous avons le plaisir de vous présenter le rapport d'activité 2017 que vous allez recevoir tout bientôt dans votre boîte aux lettres. Et nous espérons que vous lui réserverez un bon accueil. Quelques chiffres pour vous mettre l'eau à la bouche par rapport à l'année que nous venons de passer ensemble. Le nombre de prêts total est en augmentation. Nous avons atteint pratiquement les 50 000 prêts dans l'année, donc 50 000 livres que la BSR, grâce à ses lecteurs, grâce à ses donateurs, a pu mettre gratuitement à votre disposition. Un chiffre qui est extrêmement réjouissant aussi, c'est que nous avons eu une augmentation de 17% du nombre d'auditeurs par rapport à 2016. Donc c'est actuellement 1375 personnes que nous servons à la BSR et nous espérons que ça continue à augmenter et que de plus en plus de personnes puissent lire grâce à la bibliothèque sonore. Nous avons également passé maintenant la barre des 20 000 titres disponibles dans la collection et là un tout grand merci à nos lecteurs bénévoles qui travaillent sans relâche et qui passent bravement d'une évolution technologique à une autre et qui apprivoisent les nouveaux logiciels sans cesser pour autant de lire. Leur production n'a pas du tout baissé, même qu'on a changé de logiciel. Ça veut dire que tout le temps qu'ils ont investi dans cet apprentissage, ils ne l'ont pas pris sur la lecture des livres. Et ça, c'est vraiment admirable. Un chiffre aussi intéressant que vous pourrez découvrir dans ce rapport d'activité, c'est que dorénavant, plus de la moitié de nos auditeurs téléchargent. Donc ça, c'est très réjouissant pour nous au niveau de l'accessibilité du téléchargement sur notre site, mais aussi des applications qu'on a développées spécialement pour les smartphones. Ça veut dire que ça marche bien et que ça répond vraiment à un besoin.
Et puis, on peut citer encore deux articles intéressants, en plus des chiffres, etc. C'est vrai qu'en rapport annuel, c'est toujours un peu rébarbatif, mais il y a deux articles que je trouve sympas qui étoffent aussi ce rapport annuel.
Oui, deux articles qui ont été écrits par notre collègue Sergio Bellus, qui en plus d'être un excellent collègue, d'être l'auteur et l'interprète de la revue de presse, d'être un chanteur lyrique et plein de magnifiques compétences. Il est aussi écrivain, donc on a eu la chance qu'il écrive deux portraits spécialement pour vous. Un portrait de notre lecteur, Claudie Hersin, et un portrait de notre auditrice qui a été pendant des années auparavant collaboratrice et donc collègue de Sergio Bellius, Monique Cosondet.
Alors, troisième communication.
Alors là, on est dans la rue avec Marc, on est au flanc, on arrive en fin d'après-midi, tout le monde commence à sortir les terrasses, à s'installer pour la soirée, et ça nous fait bien sûr penser au livre sur les quais. Ce rendez-vous tellement agréable au bord du lac, où on a plaisir à flâner, à boire un petit coup de rosé avec les collègues, avec les amis qu'on retrouve là-bas. Donc on vous donne d'ores et déjà rendez-vous au livre sur les quais à Morges, les 1er et 2 septembre. Nous aurons le plaisir de vous proposer trois lectures gratuites, pas d'entrée payante cette année, bien sûr, pour les lectures de la Bibliothèque Sonore. Elles auront lieu à la Fondation Boll. Ce sera des lecteurs bénévoles de la bibliothèque. Et il y aura également deux lectures dans le noir, donc avec des bandeaux obscurcissants qui seront proposés par Jean-Marc Mera. La BSR aura aussi la chance d'avoir un stand sur les quais. Vous pourrez nous rencontrer, vous pourrez amener d'autres personnes, peut-être que vous connaissez, qui aimeraient découvrir la Bibliothèque Sonore Romande. Et également, nous ferons, comme les années précédentes, un maximum d'enregistrements, de tables rondes, de conférences que nous mettrons ensuite à votre disposition dans BSR Actu et aussi sur notre site de la bibliothèque.
Et enfin, quatrième sujet.
Last but not least, notre lectrice bénévole Cécile Gavlak est également rédactrice d'Ici Bazar, qui est une publication autour du travail. Et nous vous proposons en version audio un extrait du cahier numéro 3, Ce que savent les mains, les ouvriers de Guédelon. Cette publication Ici Bazar, dans la veine du journalisme narratif, le texte relate des faits réels en utilisant les ressorts de la littérature et de la poésie. C'est ainsi qu'Ici Bazar se présente et nous espérons que cette lecture vous intéressera.
Vous pouvez vous y abonner, sauf erreur, je pense que chaque fois il y a une version audio des articles disponibles.
Ici, Trény, en Bourgogne. Le soleil se faufile à travers les arbres, tel un projecteur braqué sur une œuvre encore inachevée, un château en construction. Il est 9h30. Pour l'instant, aucune couleur épicée du XXIe siècle ne tranche avec la douceur, ton sur ton, du chantier médiéval. À peine réveillé, le site resplendit de son ambiance minérale, mur de grès rouge-brun, sol d'ocre, tuiles d'argile. Je me sens comme dans une photo sépia, avec la chlorophylle en plus, et le vent, et les odeurs. Je contemple cette fresque, grandeur nature, dissimulée dans une forêt de Lyonne, près d'Auxerre, dans le pays de Puiseuil-Forterre. Pas si caché que ça. Difficile de ne pas voir les informations concernant Guédelon, sur la route et dans les offices de tourisme. L'été, il y a même des embouteillages pour y arriver, paraît-il. En cette fin du mois de juin, ce sont chaque matin des cars pleins d'écoliers qui envahissent le parking en terre battue. J'arpente le terrain depuis déjà 2 semaines afin de palper ce qui anime ce lieu à cheval entre le monde du bâtiment et celui du tourisme. Un monde du bâtiment particulier, puisqu'ici, les travailleurs construisent un château fort comme au Moyen-Âge. Ils utilisent des techniques du XIIIe siècle et des outils de la même époque pour la plupart fabriqués sur place. Toute la journée, de mars à novembre, ils s'adonnent à leurs tâches sous les yeux du public, que ce soit sur l'édifice ou dans leurs ateliers répartis sur le site. Pour pénétrer sur ce chantier de construction, il faut passer par la billetterie. Le prix du ticket participe à l'autofinancement de l'entreprise. Les recettes proviennent aux 2/3 des entrées et pour le tiers restant, des ventes de la boutique de souvenirs. Les salariés le savent. Sans le volet commercial, pas de château et pas de travail. À notre arrivée, le maître d'œuvre, Florian Renucci, nous a prévenu. « Attention, ici ce n'est pas le monde des bisounours. En plus d'être un chantier expérimental, c'est une entreprise touristique. » Bien, allons explorer la complexité de ce lieu à deux faces. L'association du début, en 1997, avec ses 5 employés, a largement pris son envol. En 2006, elle se muait en entreprise. Désormais, elle emploie plus de 80 salariés, saisonniers ou fixes, répartis entre l'administration et la construction. La PME fonctionne bien, avec 4,3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 300 000 euros de bénéfices en 2016. Ce matin donc, les débroussailleuses ont cloué le bec aux oiseaux, car oui, des engins motorisés rugissent parfois sur le terrain, en dehors des heures d'ouverture, et seulement pour les infrastructures touristiques comme les toilettes sèches ou l'entretien des chemins. La sécurité des travailleurs n'a rien de médiéval non plus, ni la logistique, un scanner pour les billets d'entrée, des talkie-walkies et bien sûr une administration truffée d'ordinateurs. Mais le château, lui, s'élève depuis 20 ans, sans aucune machine, sans électricité. Un comité scientifique suit ce chantier d'archéologie expérimentale, discipline qui utilise la reconstitution historique pour explorer les techniques de fabrication et les méthodes d'usage. Le but est de construire comme dans le passé pour faire dialoguer ce qu'on sait avec ce que l'on suppose. Tout ceci à des fins pédagogiques et scientifiques. Ce qu'on découvre, ce sont aussi les doutes, les hésitations des chercheurs. À Guédelon, employés et équipes de direction progressent tous ensemble sur un fil. Car si le côté commercial prenait le pas sur l'aspect pédagogique, le lieu pourrait devenir un divertissement au décor creux et perdre son attrait. Les visiteurs viennent voir des femmes et des hommes qui bâtissent un vrai château fort tout en partageant leur savoir-faire. La réputation du lieu repose sur l'authenticité de cette démarche. Profitant du calme, avant que le manège ne se mette en route, je flâne dans ce décor où manquent les personnages principaux, les salariés du chantier, qu'on appelle ici des œuvriers. Comme dans toute contrée inconnue, il faut s'habituer à un nouveau lexique. Le potager est un courtil, le boulanger un talmelier et le niveau à bulle un archipendule. Bienvenue au XIIIe siècle. Je me dirige vers les charretiers du jour, Laetitia Roux et Bruno Lutinier, qui sont les premiers ouvriers sur place. Ils reviennent du pré avec deux des quatre chevaux de trait dressés pour les besoins du chantier. Les lourdes bêtes aux yeux profonds se dressent, immenses et dociles. Elles aussi travaillent à tour de rôle et jamais plus de 2 heures pour le déplacement des matériaux. Les voilà. Ces véhicules ancestraux, ces transporteurs à grand cœur. Sous nos latitudes, les chevaux de trait ont été un peu oubliés dans le monde du travail. La révolution industrielle leur a piqué leur boulot auprès des agriculteurs ou sur les chemins de halage. Puis ils n'ont plus été appelés que par leur autre nom, chevaux lourds, pour servir à la boucherie. Aujourd'hui, ils retrouvent parfois un rôle à jouer, comme ici. Une fois à l'écurie, les charretiers attelle l'un des chevaux au tombereau. Des morts, un harnais, 2 guides, une sous-ventrière. La liste est longue et l'uniforme est lourd. Pendant qu'on finit de l'habiller, je retourne vers l'entrée du site pour voir le paysage monochrome se transformer. Tous les Guédeloniens, ils se sont baptisés comme les habitants d'une patrie, autoproclamés, entrent en scène sur les chemins qui se faufilent à travers les arbres. Œuvrières et œuvriers insufflent de la vie au tableau. Ils sont vêtus de l'uniforme obligatoire, une bioude, l'ancienne blouse des paysans, qu'ils entourent d'une corde ou d'une ceinture, comme un simple bleu de travail pour la plupart, seconde peau pour beaucoup. Pas de bouteille en plastique, pas de téléphone portable. Ils cachent tout dans des sacs en jute, en toile ou en cuir. Leur apparence doit se fondre dans les couleurs du site. On croirait des personnages sortis d'un livre de légende. Mais ne vous fiez pas à leur tenue. Les œuvriers ne cultivent en rien les caricatures médiévales et sont avant tout des professionnels amoureux de leur métier, diplômés de longue date ou ayant suivi une formation pour adultes sur le tard. Un coq s'égosille, en même temps que la cloche qui rythme le temps des travailleurs. 10 heures, la journée débute. Les premiers visiteurs croisent un véhicule de service qui s'en va un peu en retard ce matin. Près de l'entrée, des groupes se forment déjà pour écouter pendant plus d'une heure la voix de l'un des guides qui les familiarisera avec les 12 hectares à découvrir. Ne demandez surtout pas aux ouvriers une démonstration. Ils détestent ce mot qui sous-entend qu'il n'y aurait pas de réalité derrière. Sur leur feuille de paie, il y a un insolite mot valise, artisan, animateur. Et artisan d'abord, plusieurs le précisent. Ne leur dites pas non plus que leur travail est un spectacle, c'est réducteur. Ou alors, tout travail est spectacle potentiel. J'admire le chantier qui s'éveille. Regarder faire sans rien faire, se poster au milieu de l'activité des autres. Dans la vie ordinaire, chacun a l'occasion d'éprouver ce petit plaisir. Face aux pompiers, aux pêcheurs ou face aux mains d'un coiffeur, on braque les yeux. Ne pas rejoindre l'autre dans l'effort, mais juste observer la précision de son geste. C'est qu'il y a une ressemblance avec le cirque. Par exemple, chez les acrobates qui pratiquent l'élagage des arbres ou les contorsionnistes qui se glissent sous le châssis d'un véhicule. Contempler ces artistes du geste, c'est vivre leurs difficultés par procuration, éprouver leur satisfaction. Ils nous mènent de péripétie en péripétie à travers leurs histoires. Qui n'a jamais imaginé, enfant, vers quel pays est en train de s'envoler l'éboueur du camion poubelle? Cette poésie universelle est l'un des piliers du succès de Guédelon. La journée prend son élan. J'entends d'abord les voix des ouvriers, puis celles des outils. Les broches des tailleurs de pierre entament leur double croche, alors qu'au fond du terrain, La masse du carrier résonne comme une basse. Elle plonge en apnée dans la roche. C'est vrai, ce chantier a quelque chose d'une symphonie. Impossible ici d'avoir les yeux uniquement sur son ouvrage. Ceux qui sont dans leur bulle ne restent pas, foi de maçon. C'est comme dans un orchestre. Si quelqu'un fait une fausse note, ça ne marche pas, dit Constantin Lemel, 33 ans, arrivé en 2009. Je crois que le manque de confort, lié à l'absence des machines, entraîne l'entraide. On doit apprendre à collaborer coûte que coûte, on n'a pas le choix. Ce n'est pas inné. Dans d'autres circonstances, certains d'entre nous seraient sûrement incompatibles, mais si ça marche, c'est une prouesse. Pas d'échappatoire. Chez les maçons, il faut manipuler les engins de levage à plusieurs. Chez les forgerons, jouer parfois des marteaux en doublon, et chaque pierre taillée doit être portée à 4 ou 10 mains. L'équilibre humain flageole sûrement, mais depuis 20 ans, ce corps à multiples têtes tient sur ses jambes. Et on continue à venir les regarder s'unir dans des tâches collectives souvent délicates, souvent éprouvantes. Face aux questions récurrentes, l'engagement émotionnel n'est pas toujours le même pour raconter ce que savent les mains. Surtout que les visiteurs sont aussi bien des spécialistes que de parfaits novices. Le chantier est une véritable source de connaissances pour les uns ou une promenade divertissante pour les autres. Qu'il reste 2 mois ou 20 ans, les ouvriers doivent faire preuve de générosité, d'altruisme, pour adapter leur discours au bagage de leurs interlocuteurs. Chaque jour, à partir de l'ouverture, la photo sépia prend sa véritable tonalité, multicolore, en devenant fresque humaine. S'y balader en simple consommateur, c'est ne percevoir que la surface du manège. Les visiteurs sont invités à s'impliquer en posant des questions, pour comprendre le fonctionnement, apprendre. Du cheval au charretier, du charretier au mortier, du mortier au maçon. Les artisans qui composent cette chaîne humaine exercent leur métier avec rigueur, mais aussi un certain confort, sans toute la paperasse et les préoccupations qu'ils auraient s'ils étaient à leur compte, sans devoir monnayer le fruit de leur travail puisqu'ils ont un salaire fixe. Chez les maçons, je rencontre Guillaume Glotin, 34 ans, grands yeux bleus, salarié depuis 2006, comme un poisson dans l'eau sur son chantier. En 2010, Guillaume prenait un congé sans solde pour lancer son entreprise de maçonnerie et taille de pierre avec un ami. Parce que, dit-il, comme dans toute entreprise, il arrive qu'on se lasse du quotidien. Il éprouvait le besoin de retrouver le vrai monde, le vrai rythme de la profession. Mais c'était très dur, raconte-t-il. Soit on avait trop de travail, soit pas assez, on n'était jamais content. Alors, il est revenu dans la réalité du château et du travail d'équipe. Un après-midi, je monte sur le tombereau pour prendre de la hauteur. Ce jour-là, Laetitia, chef charretière, mène le véhicule. Avec son collègue Bruno, nous sommes tous emmenés par la jument Arpège. Pour pouvoir décharger des pierres chez les maçons, Laetitia manœuvre l'attelage en murmurant à l'animal des consignes presque inaudibles. Assise près d'elle, je me délecte de cette douceur. Recule, marche, à droite, à gauche. Impossible de détacher mon regard de la réponse de l'animal, des pas chassés, précis, qui emmènent l'attelage exactement à l'endroit voulu, en marche arrière. Puis arpège, attend tranquillement pendant tout le temps où l'on décharge le tombereau. Cette patience infaillible est le fruit de 2 ans de dressage le plus difficile à obtenir. On n'a que 2 guides, un fouet dans la main et la voix pour mener tout le véhicule, dit Laetitia. Il ne faut pas que le cheval se sente trahi. Lui sans nous ou nous sans lui, on n'existe pas. On est un trio, Bruno, le cheval et moi. Nous repartons. Puis Laetitia s'arrête pour laisser le temps à un visiteur de prendre quelques photos du convoi. C'est d'abord le public qui compte. Il faut répondre aux gens avec la banane, dit-elle en redémarrant. Mais on doit avoir une grande autorité. Le cheval doit sentir que c'est moi qui décide. Il faut avoir une main de fer dans un gant de velours. Après cette découverte en mouvement, je retrouve la terre battue, direction la corderie. Sur mon chemin, j'oublie un instant les travaux et contemple les visiteurs. Des chaussures de marche derrière des chiens en laisse et des enfants déguisés en princesse ou en chevalier. Et puis, j'arrive à la corderie où les deux rangées de bancs qui se font face ne se vident jamais. Entre elles, les cordiers tressent pendant toute la saison du lin acheté à l'extérieur. 2000 cordes sont produites par année pour délimiter les espaces du site, pour les ceintures des biaudes, le soufflet de la forge, etc. Les allers-retours de la cordière, en pleine fabrication, accaparent mon attention. Élodie Michel, 34 ans. C'est sa 5e saison. Difficile d'imaginer la femme timide qu'était cette ancienne animatrice auprès des jeunes quand elle arrivait ici. Comme beaucoup d'ouvriers, les visages focalisés sur son travail l'impressionnaient. Aujourd'hui, elle est rodée. Toute la journée, elle tresse le lin et s'adresse aux visiteurs un peu à la manière des démonstrateurs sur les marchés. « Ceci est le toupin !» dit-elle en montrant un petit objet en bois autour duquel tourne le lin qu'elle tresse. « Le toupin, de la même famille que la toupie !»« Qui a donné le verbe du premier groupe ? Allez, les jeunes !»« Toupiner, tourner en rond !» Et plus tard, « Mesdames, si j'utilise un épissoir, je suis une... » Elle se délecte des réponses. Épicière, épiceuse, épissouse, je suis une cordière, finit-elle par dire avec des yeux plissés de malice. Son épissoir, en bois de serre sculpté, lui permet de réaliser le dernier geste pour l'épissure qui termine une corde. Elle ne joue pas un personnage, mais engage tout son corps, parle fort, accentue le mouvement. Son énergie semble inépuisable. Alors, spectacle ou non ? Le fait de théâtraliser est une protection, dit-elle. C'est moi. Sans être moi, les visiteurs sont là pendant un moment très court. Quelque part, j'ai envie de leur donner le meilleur de moi-même. J'anticipe les questions évidentes pour que le public puisse aller plus loin. Car je pense que tout le monde a le droit de savoir. Stimuler la connaissance, voici son moteur. Avec l'une des vannières à l'autre bout du terrain, changement complet d'atmosphère. On tresse l'osier pour en faire notamment des paniers de chantier, des caches-gourdes. Ici, temps suspendu dans une ambiance intime. Les personnalités colorent les ateliers et celui-ci invite à l'échange. On pourrait presque chuchoter. Aurélie travaille au milieu des fagots d'osier et des bancs invitent à s'asseoir près d'elle. Je m'installe. Aurélie Paillard, 46 ans, a le profil type de la guédelonienne. Arrivée en 2003 comme teinturière, par hasard, elle a pris goût, est partie, revenue, a changé de savoir-faire et trouvé sa place. « On a enlevé les cordes devant l'atelier », explique-t-elle. « Ça faisait trop penser à des animaux en cage. Ici, les gens restent parfois pendant 2 heures. On parle de beaucoup de choses et quand ils s'en vont, on se connaît bien. » Évidemment, cette proximité n'est pas possible dans tous les ateliers. Le rapport au public dépend aussi du savoir-faire exercé et du danger potentiel dans le maniement des outils. Quoi qu'il en soit, beaucoup, peut-être tous les ouvriers, ont dû s'habituer à la présence des visiteurs. Près du moulin hydraulique, Stéphane Boudy est charpentier ici depuis 1998. Délégué du personnel aujourd'hui, il fut parmi les premiers salariés de ce qu'il appelle la boîte. Les interactions avec le public n'étaient pas simples au début. J'avais 29 ans, je manquais d'expérience, je venais d'apprendre mon métier de charpentier et en plus, je devais travailler devant des gens qui me regardaient, qui faisaient des blagues. Pour mieux comprendre ce sentiment, un après-midi, dans l'atelier tuile, j'essaie. Pour un instant au moins. Je commence une tuile devant quelques visiteurs. J'écoute les consignes, me concentre sur la terre argileuse à malaxer longuement avant de la mouler dans un cadre en bois. Je sens une douzaine de pupilles fixées sur mes mains, une drôle d'impression. Alors survient la peur du jugement, puis le sentiment d'être obligé de bien faire. En observant les ouvriers, le public est aussi témoin de leur intime rapport au travail ou à l'apprentissage. Chacun le raconte à sa manière. Commettre une erreur ou se blesser se passe au vu et au su de tous. Le brouillon ou la tentative n'ont pas lieu entre soi et soi. Seul remède pour bien le vivre, l'humilité. De vraies caméras, ces yeux de visiteurs, caméras vivantes, caméras parlantes, caméras de bienveillance, la plupart du temps. Un jour, je discute avec un touriste sur le parking. « J'ai regardé les maçons, » dit-il. « Ils bossent tranquillement. Ils ne se tuent pas la tâche, à glande. » C'est qu'on n'a pas l'habitude de cette cadence naturelle qui va au rythme humain, ralentie en plus par une fonction d'animateur. Dans le château, je croise des visiteurs. Ils forment des files indiennes qui se délitent. Ils scrutent les détails, mettent des mots, couronnent l'ouvrage. Souvent, des voix testent l'acoustique de la chapelle par des vocalises en pagaille. Et quelquefois, ça sonne. C'est beau. Et les oreilles des ouvriers le reçoivent comme une récompense. Je sors d'une des pièces de l'édifice, la chambre du Seigneur, et une forte odeur sucrée me rappelle davantage le rayon parfumerie d'un grand magasin que le Moyen-Âge. Ce sont ensuite des couleurs synthétiques qui se répandent. Un groupe de visiteurs est en train d'écouter un guide raconter l'histoire du roi bâtisseur Philippe Auguste. Ce dernier standardisa et donna son nom à un type de château fort caractérisé par différents éléments défensifs, le plus connu étant le Louvre, dans sa forme première. L'édifice en construction à Guédelon est inspiré de ce type de château. Je descends vers la carrière. Dans ce champ de cailloux, quelques outils et un bouquet de dreadlocks. Alexandre Ecker, 33 ans, travaille ici depuis 2009. Ponctuellement, pour des raisons de sécurité, c'est une pelleteuse et non des bras d'homme qui vient extraire les énormes blocs qu'il faut ensuite débiter à la main. Je me sens petite, même minuscule. Face à moi, des blocs de grès ferrugineux, bien assis. Alexandre découpe ces rochers gros comme la mer. Il crée d'abord des emboîtures, c'est-à-dire des trous en ligne dans la roche, et y enfonce des coins métalliques qui en épousent la forme. Avec la masse et la chasse-masse, il tape ensuite sur les coins jusqu'à ce que la roche se fracture. Parfois, il se passe quelque chose dans la pierre que je ne peux pas savoir à l'avance. Il y a une part de hasard, explique-t-il. La roche finit par se fendre en deux sous la répétition des coups de masse et c'est un gouffre qui s'ouvre sur des centaines de millions d'années d'obscurité. Puis, il saisit la pince à talons avec un sourire intrigant. « Je vous présente la grosse Berthe, » dit-il avant de faire levier avec cette grande barre de fer jusqu'à ce que les deux parties de roche se séparent. Quand le carrier achève son mouvement, c'est comme la fin d'un duel entre lui et la matière. Il a gagné, mais c'est avec la complicité de son adversaire. Je me retourne en entendant des applaudissements, des yeux écarquillés sur le talus, au-dessus, bouche bée. « Combien ça pèse ?» demande un visiteur. « Je ne sais pas, mais c'est lourd !» répond Alexandre en continuant à soulever son petit bout de planète. Chaque atelier a sa couleur, son odeur et son rythme. Mais partout, les corps se tordent, se penchent, se tiennent en équilibre, se tendent vers un but commun. Les membres exécutent des danses par inadvertance. Parfois aussi, ils se blessent et les douleurs n'ont rien de poétique. Hernie, tendinite, épicondylite. À la forge, il fait sombre. Magique obscurité percée de braises et de fer rougeoyant, ramolli. Un matin, Martin Claudel et Mathieu Bonnemaison frappent à deux sur une pièce. Le temps passe vite entre deux chaudes, ces moments où le métal retourne au feu. Les corps s'arquent comme des balanciers et le métal se plie au coup précis des bras qui dessinent des cercles. Ils s'interrompent quand la pièce est refroidie.
N'hésitez pas à poser des questions, mesdames et messieurs. Répète Mathieu en actionnant le soufflet géant qui respire en rythme pour attiser les braises.
Les visiteurs contemplent longuement les flammes, les étincelles qui jaillissent. Leurs visages se froncent. Ils écoutent les marteaux galoper, rebondir en triolet sur l'enclume. Cette musique sort de corps grimaçants. C'est une ébullition de patience pour faire et refaire le geste, chauffer encore la matière. Un autre jour, c'est Dimitri Sauvage qui répond à des enfants. Il s'essuie le visage et le recouvre au passage de suie.
« Qu'est-ce que vous fabriquez ? Des armes ?
Non, on n'est pas des chevaliers.
Vous restez dormir ici le soir ?
Oui, et on se douche dans le bac, là.
Non, 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 je plaisante. On fait de l'archéologie expérimentale. Ça n'a pas d'intérêt de vivre comme au Moyen-Âge. Et ça, c'est un barbecue ? Plus loin, d'autres enfants sont chez les tailleurs de pierre face à Aline Meunier, 33 ans, un gabarit en bois dans les mains. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Une guitare ?
Non !
Aidée de l'objet, elle figure ensuite un escalier dans l'espace pour qu'ils comprennent ce qu'est un gabarit. Il faut 3 jours pour fabriquer une marche en pierre comme celle-ci, dit-elle. Quand vous visiterez le château tout à l'heure, vous en grimperez 68. On a rarement l'occasion de se rendre compte du temps nécessaire à la réalisation d'un tel ouvrage. Et c'est aussi ce qui nous permet d'estimer la valeur du résultat. Aline est ici depuis 2014. La taille de pierre, elle y est tombée comme on entre dans les ordres. Une vocation, une évidence, depuis toute jeune, mais qui n'avait pas pu se concrétiser à l'époque. Quand elle se renseigna auprès des compagnons du devoir, c'était avant que la formation ne s'ouvre aux femmes en 2004. Plus tard, entourée du bruit nerveux des broches contre la roche, grès ou calcaire, elle me parle de son travail. Les gens ont parfois l'impression qu'on est surhumain. En fait, on est comme tout le monde, c'est juste qu'on aime ce qu'on fait. Je dis souvent aux visiteurs que beaucoup d'autres gens travaillent dur comme nous. En observant les tailleurs de pierre qui s'échinent sur le calcaire, je ressens comme une addiction à ce duel pour éplucher la matière comme un légume. Mais cette impression de lutte est trompeuse. Aline parle d'un dialogue. La pierre est dure, ça rend humble et patient. C'est une collaboration. J'aimerais faire ce que je veux de la pierre, mais si elle n'est pas d'accord, c'est moi qui devrais la suivre. Je repense à ces paroles en longeant les créneaux et merlons sur la coursive du château fort, éléments défensifs qui ne serviront jamais à la guerre. Lorsqu'on travaille à la main, la pierre ou le bois, il faut du temps pour arriver à ses fins. Loin d'être un combat, il s'agit bien d'une savante exploration qui nécessite de l'écoute. C'est justement le lieu où il faut renoncer à toute idée de puissance. Impossible de brancher la prise pour régler les choses d'un coup sec. Sur un créneau, je trouve la marque d'Aline, un sablier. Chaque tailleur de pierre termine son ouvrage par une signature facilement reconnaissable et rapide à exécuter. Ils gravent ainsi leur responsabilité sur un petit élément de l'immense ouvrage collectif. D'ici, j'aperçois l'atelier tout petit qui joue toujours ses doubles croches. On croirait les battements du cœur du chantier ou le tic-tac des heures qui passent. C'est bien pour cette notion de temps qu'Aline signe ses pierres d'un sablier. Quand je vois une cathédrale, par exemple, je pense aux gens qui ont fait ça, dit-elle. Et c'est encore là aujourd'hui. La passion s'est refilée jusqu'à moi. On marque notre époque. Nos pierres vont rester un paquet de temps. Les Guédeloniens rejoignent ainsi les travailleurs du passé, ceux des petits et des grands chantiers de l'histoire. Descendre les marches, traverser la cour et entrer dans l'atelier charpente comme on monte sur le pont d'un navire. Des cordes de toute taille suspendues, un espace de travail traversé par des vagues de lumière ou de vent, un capitaine. Nicolas Touchefeu, 36 ans, ici depuis 14 ans. Lui aussi parle d'une interaction avec la matière, de gestes instinctifs. « La droititude, c'est une maladie, dit-il. Ici, on s'efforce de tailler les pièces courbes en suivant la forme naturelle du bois. » Parole rare, mais captivante, derrière une barbe épaisse, il déroule souvent pour les visiteurs son plan de la charpente de la chapelle, comme si c'était la carte d'un voyage. Cette charpente de tours rondes, avec un pan droit, qui nécessite un assemblage complexe, est l'ouvrage le plus technique auquel les charpentiers se soient jamais attelés. Nicolas a réalisé 2 versions du plan. « C'est un cas d'école, dit-il. Certains rêvent pendant toute leur carrière de faire une charpente comme ça. » De manière générale, les charpentiers de Guédelon sont plutôt du genre silencieux, même si ça n'empêche pas quelques blagues provocatrices entre eux. De longs moments d'hésitation, de réflexion, avant de percer, de couper, sont palpables. Il faut être assidu, concentré pour ne pas perdre le fil, explique Nicolas. S'il y a un raté, c'est difficilement récupérable. Grégory Dufour est comme le bois des charpentes, marqué pour toujours par Guédelon. Il dit que ce lieu l'a fait depuis qu'il y est entré en 2001. Tailleur de pierre de formation, 37 ans, il vient du bâtiment. Il a entendu dans son enfance qu'il n'était pas fait pour l'école. « Tu apprendras donc un métier manuel »,
Et, ironie du sort, le voici dans un atelier où le calcul et la géométrie sont prédominants. Ce natif d'Auxerre considère, comme beaucoup de ses collègues, que son travail et sa vie forment un tout. C'est d'ailleurs ici qu'il a rencontré celle qui est devenue la mère de ses deux filles. Ils retapent aujourd'hui leur maison en ossature bois et ont reçu des coups de main d'ouvriers. L'entraide entre collègues est fréquente. L'esprit d'équipe dépasse le champ de l'entreprise. Mais qui dirige ce chantier ? Marilyn Martin, femme de virage que beaucoup ici appellent la patronne. Un jour, elle a abandonné sa place de cadre dirigeante au sein d'une grande chaîne de magasins, puis elle a fondé Emeraude, association d'insertion par le travail spécialisé au départ dans l'entretien des rivières. C'était aux paysans de les nettoyer, mais personne ne s'en préoccupait. Alors on l'a fait, dit-elle. On s'est inventé une activité. Ensuite, certains d'Emeraude la suivirent pour un autre projet, Guédelon, qu'elle et Michel Guyot, propriétaire du château de Saint-Fargeau, tout près d'ici, imaginèrent ensemble. Devenue PDG de Guédelon, Marilyn Martin considère son entreprise comme un acte politique. En 2002, elle se présentait aux législatives comme suppléante PS. Mais finalement, je me suis dit que je pourrais plus m'exprimer ici qu'à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le monde du travail fait des dégâts. Voir des gens poser leurs outils pour prendre le temps d'expliquer ce qu'ils font, c'est une provocation. À force de poser et de reprendre leurs outils, les ouvriers termineront un jour leur œuvre. Impossible de savoir quand, mais de toute façon, le chantier risque bien de continuer. Près du château, ils imaginent ensuite un village comme au Moyen-Âge. Quelques jours avant de quitter le site, je rencontre l'intarissable Jean-Michel Huré, l'un des premiers salariés anciens d'Emeraude. Hache à la main, ce bûcheron s'interrompt en plein écarissage d'une poutre. Au début, on voyait qu'on aurait du boulot pendant 20 ans, dit-il en s'appuyant sur le manche de sa hache en équilibre sur le bois. C'est pour ça qu'on voulait faire notre place dans la boîte. Marilyn Martin et Michel Guyot, ils le voyaient, eux, le château. Mais nous, on ne le voyait pas du tout. Dans ses yeux clairs, derrière ses lunettes, nagent des kilomètres de souvenirs. Chacun a son histoire à Guédelon, conclut-il. Dizaines d'histoires, impossibles à compiler. De personnes reconverties ou traînant derrière elles des wagons de savoir-faire, issus du bâtiment, de l'artisanat ou de l'animation. Dizaines d'histoires qui se côtoient, se croisent, se lient, parfois sans se comprendre. Cela fait partie de la fresque. Mais dans ce tableau en mouvement, quelque chose se fixe. Le château. Massif. Spectaculaire. L'ouvrage collectif subsistera. Nous parlons longtemps, pour peu qu'on y regarde de près, de ceux qui l'auront bâti. Texte, Cécile Gavlak. Mise en son, Cécile Brault. Avec la participation musicale de Florian Calibotte.